Donc, je vais aborder cet après-midi le MDP en montrant comment il se met en œuvre, mais surtout en montrant en quoi il constitue un outil de lutte contre le changement climatique. Et puis, dans le cadre de ce colloque, la dimension que j'ai voulu développer, c'est la dimension critique. On s'est répertorié en quelque sorte les critiques qui sont formulées sur ce mécanisme. Oh, c'est un travail de géographe, je suis géographe, pas sociologue. Et donc, voilà, il y a pas mal d'approches géographiques au sens de collecte, traitement, cartographie des données. Puis, on a quand même eu aussi une approche sociologique, d'où l'intérêt qu'on a eu par rapport à ce colloque lorsqu'on a vu l'annonce, parce qu'on avait fait pas mal d'enquêtes, on a interviewé des acteurs, des ONG. On a dépouillé des bulletins d'information, des médias spécialisés qui travaillent sur le MDP. Alors, dans un premier temps, je vais développer le mécanisme et montrer comment les États l'utilisent dans le cadre du protocole de Kyoto. Dans un deuxième temps, les critiques qui ont été formulées sur le mécanisme, des critiques faites par des ONG, des médias, et en conclusion, on verra quelle est la portée de ces critiques par rapport à l'intégrité de ce mécanisme. Alors, en guise d'introduction, donc ce mécanisme MDP, mécanisme pour un développement propre, il est issu de la Convention sur le changement climatique qui a été complétée par le protocole de Kyoto. Et alors, dans le cadre de ces deux traités internationaux qui organisent la lutte contre le changement climatique, il y a un élément qui est assez fondamental, qu'on appelle le principe de la responsabilité commune, mais différenciée des États. C'est sur la base de ce principe qu'on a organisé la lutte contre le changement climatique, en distinguant un groupe de pays, qu'on appelle pays annexe 1 de la Convention, et l'autre groupe, c'est-à-dire le reste du monde, tous les autres pays. Alors ce principe, justement, d'un point de vue stratégique ou diplomatique, il est devenu le principe de la responsabilité historique des pays développés. Simplement parce que les autres pays, c'est-à-dire les pays non annexes 1, vu qu'on leur faisait des faveurs, en considérant qu'il faut graduer les responsabilités, il ne faut pas trop exiger des choses aux pays qui ne sont pas responsables, ils se sont un peu engouffrés, ils ont utilisé ce principe pour imputer la responsabilité des problèmes environnementaux aux pays développés. Donc ce principe qui sous-tend la Convention climat et le protocole de Kyoto a donné lieu à une bipolarisation du monde, j'appelle ça une nouvelle bipolarisation du monde, avec une organisation en deux, d'un côté les pays dits annexe 1, dont les pays développés, à qui on impute la responsabilité du changement climatique en leur demandant de faire des efforts en termes de réduction des émissions. Seuls ces pays, annexe 1, ont des engagements contraignants de réduction de leurs émissions. Les autres, en dessous de la ligne, n'ont pas d'obligation. Ils peuvent continuer de faire comme bon leur semble. Alors, simplement, le MDP est venu se greffer dans ce dispositif parce que les pays développés, les pays annexes 1, ayant des obligations, pour amoindrir les coûts de leurs obligations et pour, en quelque sorte, inciter néanmoins les pays non annexes à participer, on a imaginé ce mécanisme pour permettre aux pays qui ont des engagements de réduire une partie de leurs émissions dans les pays en développement, où ça coûterait moins cher, où il y aurait moins de contraintes. Donc le MDP est mis en œuvre, on l'appelle un mécanisme de flexibilité, pour en quelque sorte assouplir les contraintes qui pèsent sur les pays développés et puis inciter les pays qui n'ont pas d'engagement à commencer aussi à faire quelque chose ou en tout cas à soutenir des choses que les pays développés viendraient faire chez eux. Alors, en tant qu'instrument de lutte contre le changement climatique au niveau international, il est fondé sur trois engagements, trois objectifs qui doivent être suivis. Le premier qui est d'ordre environnemental, c'est les technologies. Il faudra que les pays développés, parce qu'on part du principe qu'ils sont avancés du point de vue technologique, qu'ils puissent mettre à la disposition des pays en développement, des pays qui n'ont pas d'obligation, des technologies dites propres, des technologies qui émettent moins de gaz à effet de serre que ce qui existe dans ces pays en développement. Le deuxième volet qui est socio-économique, d'ailleurs dans le texte qui organise ce dispositif, on indique que le mécanisme doit permettre le développement durable des pays en développement, des pays du Sud. Puis troisième dimension, la dimension commerciale, c'est que lorsqu'un pays annexe investit dans un projet MDP, dans un pays en développement, cela génère on appelle dans le jargon des URS, des unités de réduction certifiées des émissions. C'est l'équivalent de crédit carbone qu'on va donner aux pays développés. Enfin, il peut l'acheter aussi dans le cadre des marchés carbone, au titre de ses engagements dans le cadre du protocole de Kyoto. Alors, j'ai essayé de simplifier pour rendre ça compréhensible en prenant un exemple sur ce graphique. D'abord, vous avez là le pays développé, comment il doit intervenir dans le MDP. C'est lui qui doit investir. Le pays en développement, qu'on appelle aussi pays hôte des projets, les retombées pour lui. Alors, là, dans cet exemple, on va penser par exemple que la France a des obligations de ne pas déborder de 1000 tonnes ses émissions. Alors, dans l'hypothèse où elle déborde, quand même, parce que ses besoins en termes d'industrie, de développement font qu'elle va au-delà de ce qui lui est demandé, dans le cadre du MDP, et c'est ça la flexibilité, la France peut investir, disons, au Tchad. Et par cet investissement au Tchad, la France fait en sorte que le Tchad, qui devait émettre 600 tonnes de CO2, le Tchad, enfin, par l'investissement d'une entreprise française, on arrive à éviter 200 tonnes. Voilà. Donc, on va considérer que grâce au MDP, on a réduit les émissions du Tchad. Au lieu de 600 tonnes, il y a eu 400 tonnes. Donc finalement, s'il n'y avait pas eu le MDP, on aurait eu les 1200 tonnes de la France plus les 600 tonnes du Tchad, ça aurait fait 1800. Et grâce au MDP, là, on va avoir 1600 tonnes. Donc c'est un peu ça le principe. Et puis les retombées, bon, le Tchad doit recevoir la technologie, tous les financements. Ce n'est pas au Tchad de financer le projet qui va permettre cette réduction des émissions. Dans tous les pays qui ont ratifié Kyoto, on a créé des organismes, des autorités nationales désignées qui doivent valider les projets. Et puis des bureaux d'études qui ont été mandatés pour vérifier ça, pour développer des méthodes, pour quantifier les crédits carbone qui résultent de ces projets. Après un timide démarrage, suite aux accords de Marrakech en 2001, les premiers projets ont été enregistrés par... Il y a une instance qui centralise tous les projets, ça s'appelle le comité exécutif du MDP auprès des Nations Unies. Alors, le site est bien documenté de ce comité exécutif, son site internet. Donc en traitant les données qui y sont, on a d'ailleurs suivi vraiment journalier des projets qui sont soumis, validés ou refusés, parce qu'il y a toute une procédure assez laborieuse. Donc il y a eu un timide démarrage, et puis à partir de 2007-2008, une explosion, de sorte que tous les pays ont vu l'intérêt qu'il y avait à participer à ce mécanisme pour engranger des crédits carbone ou pour recevoir de la technologie dite propre. Alors, les projets sont mis en œuvre dans plusieurs domaines, comme on le voit dans ce tableau. Les industries énergétiques, essentiellement les énergies renouvelables, les éoliennes par exemple, le domaine du traitement et de l'élimination des déchets, essentiellement des entreprises qui vont vouloir réduire les quantités de méthane liées aux déchets qui sont stockés, les industries manufacturières, l'agriculture, la foresterie, les transports. Et on voit dans ce tableau qu'il y a peu de projets, par exemple, dans le secteur de la forestation et de la reforestation, parce que simplement, du point de vue des méthodes, on n'avait pas réussi à mettre au point. Ça, c'est un système qui s'auto-alimente. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas une procédure méthodologique indiquée. Ce sont les acteurs qui vont dire, tiens, j'ai trouvé une méthode qui me permet de calculer les émissions qui résulteraient d'un projet. On va soumettre la méthode au comité exécutif du MDP. Il y a tout un groupe, un panel qui s'occupe des aspects méthodologiques, qui va le valider et ça va rentrer en application. Et du coup, les autres acteurs qui sont intéressés par ce secteur vont pouvoir soumettre des projets. Donc, le nombre de projets dépend aussi des méthodologies qui sont disponibles, qui sont proposées. Alors, il y a un volet qui a fait pas mal de polémiques, les projets dans le secteur des industries chimiques, notamment les HFC-23. C'est un secteur qui a donné lieu à une très grosse controverse. Parce que voilà, bon, on a estimé que les méthodes n'étaient pas suffisamment fiables. Les entreprises en ont profité pour générer un nombre de crédits carbone qu'on a considéré comme étant largement fictif. Et puis, bon, on voit que le secteur des industries énergétiques, hein, c'est le secteur qui a le plus grand nombre de projets, 64% de projets. Donc, quelque part, il y a une dimension, on peut dire, nouvelle aussi, au sens où, finalement, les entreprises des pays développés permettent aux pays en développement de développer ces dispositifs qui utilisent des énergies comme le soleil dans les pays chauds. Une idée de la répartition des projets, on verra plus loin que c'est quelque chose qui fait l'objet de critiques, justement le fait que les projets ne soient pas équitablement répartis dans les pays non annexes 1, dans les pays en développement, on voit que c'est essentiellement dans les pays émergents, en Asie, la Chine qui est leader, et puis un peu en Amérique du Sud. Et alors c'est aussi un élément qui est critiquable dans la mesure où les pays émergents, d'une part, ils ont été comptés comme étant les pays non annexes, hein, donc qui n'ont pas d'obligation, alors que leur développement est assez fort ces dernières années, le taux de croissance dans ces pays est assez important, et les émissions de ces pays augmentent aussi de manière considérable. La Chine, qui est devenue le premier émetteur en tant que pays, et donc qui est épargné dans le dispositif Kyoto, n'a pas de contraintes de réduction, et qui, en plus, profite d'un mécanisme qui était censé, on aurait pu penser qu'il bénéficierait davantage aux pays les moins développés, comme ceux d'Afrique. On voit que près de 2% seulement de projets sont localisés en Afrique. Alors, j'ai pris l'exemple de la France pour voir les pays dans lesquels la France, parce que la France, pas forcément au sens d'État, c'est-à-dire que la France va valider des projets qui sont proposés par des entreprises françaises qui souhaitent utiliser ces dispositifs. Donc là, sur la carte, on voit la répartition, à la fois en termes de projets, les traits, et puis en termes de quantité de crédit, les cercles proportionnels. Donc on voit que c'est assez conforme à la carte qu'on a vue tout à l'heure, où on voit que ce sont les pays émergents qui profitent le plus de ce dispositif. Donc ça, c'est pour les projets qui ont été acceptés. Parce qu'au départ, on dépose le projet, le comité exécutif du MDP va demander à les appels des entités opérationnelles désignées, d'évaluer le projet, de dire s'il est conforme ou pas. Ensuite, on va expérimenter, voir si le projet se met en œuvre et s'il y a des réductions. On va certifier, accepter le projet et dire quelles sont les quantités de carbone qu'on va produire et mettre ça dans les registres au niveau international. Et donc là, sur la carte, on n'a que les projets qui ont été acceptés. Pour l'instant, ils sont au stade où ils ont été acceptés, ils sont enregistrés. Je fais le même exercice avec des projets pour lesquels des crédits carbone ont déjà été délivrés. C'est-à-dire que des entreprises ont déjà touché, en quelque sorte, l'équivalent en URSS, les crédits carbone, qu'on peut retrouver soit au titre des engagements des pays dans le cadre du protocole de Kyoto, soit parce qu'il y a des connexions avec le marché européen du carbone, on appelle le système communautaire des quotas d'émissions, Et puisque chaque pays de l'Union européenne a des obligations, on a distribué des quotas aux entreprises et des entreprises peuvent avoir recours à ce marché pour tenir leurs obligations. Donc ça, c'est pour les projets pour lesquels des crédits ont effectivement été délivrés. Et ben, le schéma est assez conforme au schéma général, toujours les pays émergents. Alors, deuxième aspect de la présentation, les critiques qui sont relayées par les médias spécialisés. Alors, je me suis intéressé à deux journaux, Nouvelles francophones du marché du carbone et du MDP. C'est une publication qui émane de l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie, c'est basé à Montréal. On a dépouillé tous les numéros qui sont disponibles. C'est depuis 2005 que cette publication est diffusée. La deuxième publication à laquelle on s'est intéressé s'appelle Moniteur du MDP et de la MOC. Alors, MOC, mise en œuvre conjointe, c'est un autre dispositif de flexibilité. Et là, ça concerne essentiellement les pays annexes 1 entre eux. Ça n'engage pas, la MOC n'engage pas les pays en développement. Et pareil, on a dépouillé tous les numéros qui sont disponibles. Cette publication, enfin sa version française ne paraît plus. C'est grâce à la mission interministérielle sur l'effet de serre que ça a été traduit en français. En fait, c'est une publication qui paraît en anglais, qui est diffusée par un groupe assez bien connu, le groupe Thomson Reuters, qui est bien connu sur le secteur de la finance carbone. Alors, les critiques qu'on a relevées en dépouillant ces deux médias, on a essayé de les organiser en catégories pour voir les types. Parce que on lisait des articles, pour chaque article, on énumérait les aspects critiques qui étaient évoqués. On a essayé de comptabiliser le nombre d'articles et puis de faire des fréquences relatives. Et là, donc, on voit que, voilà, il y a trois pour le premier magazine, Nouvelles francophones du marché du carbone. Il y a trois types de critiques qui dominent: la répartition sectorielle et géographique, le fait qu'il y a des déséquilibres, le fait que le mécanisme profite davantage aux pays émergents qu'aux pays qui auraient en principe eu. Qui aurait enfin, été dans la nécessité de bénéficier de ce mécanisme, surtout sur la dimension technologique. Puis le deuxième volet, la méthodologie et l'additionnalité. Alors, ce sont des critiques justement qui évoquent le fait que, au jour d'aujourd'hui, en appliquant les méthodes qui existent, d'une part, on n'est pas sûr que les émissions qu'on déclare avoir évitées sont réelles. Et d'autre part, il y a beaucoup de tricherie dans l'application des méthodes, avec en particulier ce terme-là, additionnalité, qui, même enfin, sur le plan purement intellectuel ou philosophique, est assez compliqué. En fait, additionnalité, c'est-à-dire qu'on doit prouver que les réductions des émissions n'auraient pas pu l'être autrement. C'est-à-dire que c'est uniquement parce que le MDP a existé qu'on a pu réduire les émissions. Donc, on se demande comment concrètement on peut prouver que, ben, on n'aurait pas pu faire autrement si le MDP n'avait pas existé. Donc, les médias ont énuméré un certain nombre de projets assez discutables en montrant que, voilà, une technologie similaire existait déjà au Brésil. On n'aurait pas pu ne pas utiliser le MDP. Le pays aurait de toute façon réduit ses émissions. Donc le MDP, c'est plus un effet d'opportunisme, un effet d'aubaine. Et parmi les trois principales catégories, dont la troisième, c'est la procédure, la gouvernance et l'éthique. Et là, les articles dénoncent le fait que les procédures sont assez longues, il n'y a pas suffisamment de transparence. Le comité exécutif du MDP qui valide les projets, alors souvent, ce comité est composé de ressortissants des pays pour lesquels les projets sont présentés. Du coup, on pense qu'il y a un conflit d'intérêts. Il y a beaucoup de juges qui ont intérêt à ce que les projets soumissionnés soient acceptés. puis les autres catégories, coût des projets, beaucoup de pays, justement des pays en développement, en Afrique, disent que les entreprises de ces pays n'ont pas suffisamment de capacité, n'ont pas suffisamment d'assises financières pour faire prospérer des projets dans ces pays-là. Les fuites de carbone, le fait que les projets ne sont pas, enfin c'est très localisé, réaliser un projet MDP signifie que on peut réduire les émissions sur un secteur ou dans un endroit, mais qu'on peut déplacer le problème. C'est-à-dire que l'évaluation ne porte que sur les projets et ne prend pas en compte un territoire ou un pays au sens général. Donc le fait de réduire ici n'empêche pas qu'il y ait augmentation à côté. Et puis, perspective du protocole, j'essaye de développer un peu parce qu'après, il y a encore, enfin, il y en a un tableau similaire, du coup, je ne reviendrai plus sur les contenus. Les perspectives du protocole, là, les journaux considèrent que ce sont des aspects critiques parce que jusqu'à actuellement, d'ailleurs, il y a eu pas mal de négociations, pas mal de débats pour savoir la suite à accorder à ce protocole qui. Enfin, la première phase arrive à échéance à la fin de cette année. Et du coup, il y a eu une période de flottement. On ne savait pas si ça allait être reconduit ou pas. Et ça a joué sur la dynamique de ce mécanisme. Et puis, les autres aspects positifs, donc ce sont les critiques que nous avons considérées comme répercutant les aspects positifs dans la mesure où certains articles évoquaient le fait que suite à une pression exercée par des ONG ou par des associations, le comité exécutif du MDP a réagi, on a suspendu telle entité opérationnelle désignée, on a revu telle méthode. Du coup, nous avons rentré ça dans une catégorie qu'on a appelée autre pour prendre en compte ces aspects positifs. Alors, pour le deuxième média, moniteur du MDP et de la MOC, on a à peu près les mêmes catégories de critiques, avec les trois premières qui dominent. Donc, ce qui montre des similitudes assez importantes lorsqu'on compare les deux sets de critiques. Donc, c'est ce qui apparaît sur les graphiques, notamment celui d'en bas où, en superposant, on voit qu'il y a pas mal de convergence sur ces critiques. Bon, je vais aller un peu rapidement parce qu'il me reste peu de temps. Le point de vue des organisations non gouvernementales internationales, on a mené des enquêtes par entretien avec CDM Watch, qui est une ONG qui s'est spécialisée sur le MDP depuis plusieurs années, et puis avec une autre organisation non gouvernementale qui est basée en Suisse, Noé 21. Noé 21 pour Nouvelle Orientation Économique pour le 21e siècle, c'est pour ça que je les qualifie d'utopistes, parce que enfin, leur approche était assez originale dans la critique radicale du système économique dominant. Donc, ces ONG qui observent le mécanisme, qui suivent, y compris au niveau local, en envoyant des gens sur le terrain, en travaillant avec des associations locales pour voir ce qui se passe concrètement. Enfin, ça nous paraissait intéressant d'avoir leur point de vue. Pareil, on les a interviewés, on leur a demandé de faire des critiques sur le MDP en essayant d'évaluer ces critiques par degré de gravité. Qu'est-ce qui est plus important? Alors certes, ça a été difficile de comparer, d'attribuer des notes. On a réussi, après plusieurs rappels, en insistant un peu lourdement, à faire en sorte qu'ils proposent une note pour que nous puissions évaluer le degré de gravité. Donc pour ces deux ONG, c'est essentiellement la gouvernance et l'additionnalité. D'ailleurs, bon, ils avaient du mal hein, en disant, ouais, c'est. Alors, il y a une expression que les gens de CDM Watch utilisent en disant c'est comme l'œuf et la poule, on ne sait pas entre additionnalité et gouvernance, c'est qui l'emporte, on ne sait pas qui était avant, sans doute il y a interdépendance, c'est parce que la gouvernance n'est pas bonne qu'il y a des problèmes d'additionnalité. Et puis l'additionnalité, c'est révélateur du fait qu'il n'y a pas de gouvernance. Donc c'était assez compliqué, mais enfin, on a pu au moins obtenir ça qui nous permet de considérer que les aspects les plus importants sont ceux-là, l'additionnalité, la gouvernance, l'intégrité environnementale. Alors pour conclure, donc ces critiques sont assez importantes et ça fait aussi l'objet d'un rapport qui est disponible sur Internet de Transparency International, qui est une ONG spécialisée, enfin je dis ONG, oui, bon, on peut le dire. C'est une organisation non gouvernementale internationale qui s'est spécialisée dans l'évaluation de la corruption dans le monde et qui publie un rapport annuel. J'étais assez étonné de voir que le rapport 2011 portait sur la corruption dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Il y a énormément d'articles sur le MDP qui confirment les critiques que nous avions inventoriées dans les médias, qui ajoutent certaines autres, notamment la supervision insuffisante du mécanisme, l'incompétence de certaines instances d'évaluation. Et alors, bon, au regard de toutes ces critiques, on s'est posé la question, pour laquelle on n'a pas de réponse, de savoir finalement quel est l'impact de ces critiques, qu'est-ce que ça... C'est-à-dire que si tout avait fonctionné normalement, est-ce qu'on aurait pu être efficace? Ou alors, jusqu'à quel point ces critiques, ces dysfonctionnements, entraînent des fausses réductions des émissions? Alors, c'est un aspect qu'on souhaite approfondir dans la suite de ce travail. Alors, des réactions suite aux critiques ont commencé à émerger et par rapport à ces critiques, des instances comme l'Union européenne ont pris des décisions, par exemple de rejeter dans le système européen les crédits qui sont issus des projets controversés, notamment de HFC-23. Et puis à partir de 2013, de n'accepter que les projets réalisés dans les pays les moins avancés. Alors, si on considère ça de manière générale, dans le cadre des négociations, notamment les dernières décisions, la COP de Durban en Afrique du Sud, le mécanisme a été reconduit en l'état dans la période probatoire qui va commencer en 2013 jusqu'en 2017, en attendant le prochain protocole ou la prolongation ou en tout cas l'adoption d'un nouveau traité international. Parce que voilà, il est considéré comme un mécanisme dit gagnant-gagnant, chaque pays trouve son compte, que ce soit les pays en développement ou les pays développés. Voilà, merci.
Merci beaucoup.